Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 60e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve avec plaisir cette semaine et je suis accompagné de Majo. Salut Majo.
Salut Sei.
Ça va bien ?
Bah écoute, ça va, en forme.
Ouais. Beaucoup de tests ces derniers temps, beaucoup de jeux, pas mal de choses à faire. Donc
beaucoup de tests, pas mal. On a été très actifs tous cette semaine, bon, surtout Laurent comme d'habitude. D'ailleurs, ouais. Comment tu vas Lolo ?
Et je crois qu'il est dans sa maison secondaire du Liechtenstein avec tout le pognon qu'il amasse avec VR for Player sur notre dos.
Donc, au bord de la plage.
Au bord, voilà. Du Liechtenstein, ouais, je suis pas sûr.
Je sais pas où c'est, je suis un inculte.
il a peut-être créé une plage là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on lui passe le bonjour, on passe le bonjour à toute l'équipe, à tous les auditeurs, et aussi je voulais faire une petite dédicace à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le Discord, avec qui on échange, avec qui on papote, on débat, on échange les idées, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est cool. Si vous voulez nous rejoindre, il y a rien de plus facile. Il faut vous créer un compte Discord et puis vous allez sur le lien qui est en haut à droite du site. Et puis après, vous venez papoter avec nous, avec la commu, et c'est toujours bien sympa. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, si vous avez un compte, et sur Twitter aussi, et puis voilà. Et puis tiens, j'ai récupéré mon compte aujourd'hui de Facebook, hein, en fait.
Ah, bonne nouvelle!
Ouais, mais j'y suis retourné du coup depuis, c'était bloqué depuis un mois et demi quand même, pour rien.
Et puis ça passe vite quand même.
Ouais, et puis je me suis rendu compte que c'était toujours autant de la merde, donc je pense que là, mon sevrage va être très très utile.
Ça t'aura fait du bien au moins.
Je pense. Voilà. Écoute, je te propose, on va commencer par les news, du coup, ce qui s'est passé ces deux dernières semaines dans le monde du PSVR. Notamment, tu voulais nous parler du PSVR 2 et de ce qui avait fuité au niveau des spécificités du casque.
Ouais, alors c'est du coup Upload VR qui a fait un article là-dessus avec des fuites. Ils auraient eu des informations, vraisemblablement d'après ce qu'ils disent, de la part d'informateurs de chez eux. Mmh. Et y a pas mal de spécificités sur le futur casque qui ont fuité. Spécificités qui sont donc très intéressantes quand même. Notamment sur la définition du casque qui est annoncée de 4000 par 2080 pixels. Mmh. Pour donner un ordre d'idée, le Reverb G2 donc de chez HP et Microsoft, lui il est à 4320 par 2160. Il est réputé pour avoir une résolution et surtout une définition pardon et surtout une résolution qui est vraiment très très impressionnante et ça le placerait aussi ce futur PSVR 2 si jamais ça s'avère vrai au-dessus du Valve Index qui est lui une définition de 3200 par 1440. Voilà. Ça fait partie des bons points de cette fuite, donc c'est toujours ultra intéressant. On le sait aujourd'hui le PSVR il a une dalle de 1920 par 1080. Et on a quand même cet effet de grille. Alors il y a un super traitement logiciel qui est fait derrière qui fait que ça atténue tout ça. Mais c'est vrai que là on serait si je dis pas de bêtises plus de deux fois au-dessus ou deux fois au-dessus. Donc ça reste quand même pas négligeable. Et c'est même plus que top quoi au final parce que ça va sublimer pas mal de jeux. Bon évidemment il va falloir que la PS5 elle sorte un peu toutes ses tripes parce que plus la définition est élevée et la résolution est élevée, plus forcément il faut de ressources pour afficher.
Plus c'est gourmand.
Ouais. Exactement. Voilà, donc ensuite ils ont aussi évoqué qu'il y aurait de l'eye tracking. Alors l'eye tracking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est le suivi du regard. Et en fait, là où c'est important, c'est que justement, ça va avec le point précédent, c'est-à-dire que ça, là où la résolution et la définition vont demander beaucoup plus de ressources, l'eye tracking, lui, va permettre d'en économiser pas mal, parce que en fait, le logiciel suit votre regard, et du coup, la console ne va calculer que ce qui est dans le champ de vision de l'œil. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est, on va dire, alors autour de ce champ de vision, au-delà d'un certain degré, ne sera pas calculé ou sera calculé d'une manière beaucoup plus légère et surtout beaucoup plus floue, ce qui permettra donc d'économiser de la ressource et donc de pouvoir avoir des jeux de meilleure qualité, plus fluides et surtout avec du coup une meilleure définition, une meilleure résolution. Et donc ça, on en avait déjà parlé pas mal de fois. Et la dernière chose, c'est l'apparition. Alors ça, c'est un peu surprenant. Il parlerait d'un retour haptique dans le casque. Donc,
c'est bizarre ça.
Bah écoute, apparemment le retour haptique c'est le fer de lance de la nouvelle génération chez PlayStation, pardon, puisque la DualSense, les futurs contrôleurs. Et du coup, maintenant le casque lui-même, vraisemblablement, alors à voir à quoi ça pourra servir. On pense surtout aux jeux de boxe ou une explosion pas trop loin de toi, par exemple. Quand tu prends un crochet du droit sur un jeu de boxe, tu pourrais sentir d'où ça vient. Enfin, ou même pour tout ce qui est impact de balle ou ce genre de choses. Ça me fait penser aux vestes haptiques de je sais plus quelle société qui faisait ça. Où justement tu as cette spatialisation par la vibration qui est quand même un atout majeur dans la VR, et tu pourrais avoir ça dans une moindre mesure peut-être au niveau du casque. Donc bref, à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas ça reste des informations qui sont assez intéressantes. Et ouais. C'est toujours pareil, c'est des fuites, donc ça n'est pas officialisé par PlayStation, mais Upload VR, c'est quand même un site en qui assez on sérieux. Peut avoir relativement confiance, et pour le coup ça nous laisse penser que ça reste quand même plutôt envisageable, voilà.
Ouais, toutes ces infos font dire que vraiment on va passer, si ça s'avère vrai, à la seconde génération des casques, une vraie seconde génération.
On peut coupler ça avec le dernier trailer, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, que Laurent a fait sur le PSVR2, entre guillemets, toujours, qui lui profite des nouvelles idées et nouvelles techno qui sont là, et notamment les lentilles pancake. Qui permettent d'avoir un besoin d'écran beaucoup moins éloigné de l'œil, et ce qui permettrait d'avoir des casques encore plus petits que ce qu'on connaît aujourd'hui et que ce qu'on imaginait du coup, sans avoir, comme il appelle ça, un masque, ce casque VR type masque de plongée. Où là on se rapprocherait plus de quelque chose comme des lunettes de ski ou quelque chose dans le genre. Et c'est vrai que si on met tout ça bout à bout, ça peut vraiment être pas mal. Alors après, le retour haptique, ça demande quand même des moteurs, notamment, pour ceux qui ont déjà vu dans la DualSense, ça prend quand même pas mal de place. Il y a quand même de la rotation, un système de billes, si je dis pas de bêtises. C'est quand même une technologie assez complexe. Donc ça aussi, si c'est vraiment le cas, ça peut remettre en doute la taille du casque. Donc à voir. Mais c'est vrai que tout ça mis bout à bout, si on prend le dernier trailer plus ces dernières fuites de chez Upload VR là, ça n'augure que du bon, voilà.
Clairement. Après, pour les moteurs, pour les retours haptiques, ça tient dans les nouveaux contrôleurs qui sont quand même assez fins, où ça va certainement se placer uniquement dans le manche qu'on va tenir. Donc je pense pas que ça va prendre peut-être énormément plus de place sur le casque. Je suis plutôt confiant à ce niveau-là, donc.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le casque actuel tel qu'on le connaît, il me semble que dans tout ce qui est autour, enfin même si tu vas chez Oculus ou HTC qui eux n'ont sensiblement que des sangles, enfin, t'as pas vraiment de système à part du câblage qui passe dans l'arceau. Donc si vraiment retour haptique il doit y avoir, est-ce que ça sera qu'en façade, est-ce que ça sera tout autour de la tête, tu vois, comme je parlais de spatialisation des dégâts tout à l'heure. Donc ça peut forcer justement à épaissir ce genre de comment dire, d'accessoires de partie du casque. Donc c'est pour ça, à voir du coup, en tout cas c'est dans la théorie, c'est dans la fuite, donc voilà,
comme a dit Majo, allez voir le trailer que Laurent a fait qui envoie du rêve, hein. Franchement, encore une fois, c'est vrai que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus esthétique, ça a l'air bien fini en tout cas, et ça reste une vue d'artiste évidemment, mais en tout cas, je serais bien content en tout cas s'il pouvait ressembler à ça.
Trailer d'ailleurs, trailer d'ailleurs qui est issu du dossier La Seconde Génération VR qui a été publié pareil il y a 2 jours. Donc voilà, allez-y, aussi un petit dossier d'une 40aine de minutes, très intéressant, sur comme d'habitude un point actuel, 2-3 choses qui font rêver d'ailleurs, hein, parce que la chose qu'on retiendra, c'est que l'avenir des casques VR, visiblement, ça semble être la projection directe dans l'œil. On va dire ça comme ça. Mais gardons, sans vouloir faire peur à personne, gardons les pieds sur terre quand même. Mais
ouais, Matrix quoi.
Mais non, mais dossier quand même, comme d'hab, toujours très intéressant, et plein de bonnes infos et de bonnes sources surtout, parce que tout est, comme d'habitude, tout est bien expliqué et sourcé dans la vidéo, donc allez-y, pareil, faites-vous plaisir si vous avez un petit peu de temps devant vous en ce week-end à rallonge.
Enfin, parle pour toi, hein, parce que moi je bosse demain.
Donc, oui, moi aussi.
Ah d'accord, ok, solidaire, c'est bien. Il en faut. Ok, et voilà, c'est tout ce qu'on savait, en tout cas tout ce qu'on a appris. On va quand même laisser les guillemets d'usage, hein, les fuites qui ont été récupérées sur le PSVR 2, qui s'appellera certainement pas PSVR 2, mais ça on verra quand ça sera un petit peu plus concret. Ensuite, tu voulais nous parler de Lance Note.
On dit Lars Note.
Parfait.
Ouais, alors Lars Note, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le futur jeu d'Impulse Gear. Impulse Gear, c'est qui? Eh bien, c'est les producteurs de Farpoint.
Voilà. Ça y est.
Ah ben, alors c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Hein.
L'ascenseur émotionnel, tu vois.
Exactement. Du coup, il y avait eu 2-3 news là. Ils avaient refait parler d'eux début décembre, en nous précisant que ils allaient bientôt communiquer sur un nouveau jeu. Et puis il y a eu le jeu Farpoint qui a fait partie des jeux PlayStation Plus au mois de mars. Mmh. Et puis forcément on s'est dit un Farpoint 2, une suite, un nouveau gros jeu pour le PSVR, c'est le top. Et puis le 5 mai. Donc c'était il n'y a pas longtemps, il y a une petite semaine.
C'est ça.
Ils nous ont annoncé Lars Note. Donc Lars Note, c'est quoi? C'est un Battle Royale. Voilà, en VR, en 6 contre 6, en arène. Et surtout, c'est sur Oculus et SteamVR. Voilà.
Voilà. Donc sur PC et sur Quest en gros.
Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que on n'a pas le jeu qu'on voulait. Enfin, on n'a pas le jeu qu'on voulait, c'est toujours pareil, on ne sait pas de toute façon ce qui se passe derrière, mais c'est surtout l'ascenseur émotionnel, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un jeu qui n'est pas à la suite de Farpoint, qui n'a rien à voir avec Farpoint, et surtout qui ne sort pas sur PSVR. Voilà.
Ouais. Ou du moins pas dans l'immédiat. Toujours le risque après de sortir des jeux multi comme ça, commencer à en avoir quand même pas mal, soit dans le milieu, on va dire, militaire, comme Alvo, Evolve, enfin pas Evolve, merde, je, l'autre là qui a un nom qui ressemble, là, je me souviens même plus comment il s'appelle.
Pavlov,
voilà, qui est prévu aussi. Voilà, et c'est toujours casse-gueule en fait, je comprends pas en fait les développeurs comme ça qui ont mis en place une grosse licence du PSVR qu'on aimerait bien aussi voir sur PC, avec le M Controller aussi, quand vous voyez du bois, enfin voilà, tous ceux qui ont joué à Farpoint avec le M Controller s'en souviennent quoi, c'est une super expérience, c'est vraiment génial, avec une qualité de production et de mise en scène qui est quand même vraiment dans le haut du panier.
Ouais, c'est un très bon jeu, même aujourd'hui, enfin surtout encore plus aujourd'hui avec tous les
même
jeux
aujourd'hui.
Qu'on se tape. Ouais.
Alors donc, on se rend compte que voilà, à l'époque il y avait quand même des très très bons jeux qui sortaient déjà, et puis voilà, on se retrouve devant Lars Note et c'est un jeu générique en fait qui est peut-être bien dans l'air du temps, mais y en a qui se sont cassés les dents en fait, hein, des jeux multi comme ça, et c'est toujours décevant quand t'es un joueur seul de voir ça.
L'avantage, c'est toujours pareil, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui, il y en a quand même qui ont tiré leur épingle du jeu. L'avantage là-dessus, c'est que ça va être encore, enfin c'est du cross-platform dans le sens où c'est Oculus et SteamVR, donc
ça c'est bien.
Qui dit Oculus dit Quest, et SteamVR dit PCVR, donc forcément il y aura du joueur. Maintenant, je pense que c'est plus le fait que c'est pas le genre de jeu qu'on attendait, Et encore une fois, aujourd'hui, le Battle Royale, ça fonctionne. Tu prends Population One sur Quest.
Sur Quest, ouais.
Ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne et que bah, les devs en sortent, je pense que c'est qu'il doit y avoir une demande. Et bon, bah, après, il en faut pour tout le monde, hein, comme on dit.
Ouais,
Il en
bien sûr.
faut, il en faut pour tout le monde. Maintenant, c'est surtout le fait que ça ne soit pas sur PSVR et que ça ne soit pas lié de près ou de loin à Farpoint. Voilà. Mais
Farpoint.
rien ne dit, alors après, ils sont pas 36, hein, mais rien ne dit qu'ils ne nous préparent pas quelque chose pour le futur PSVR non plus. Parce que c'est ça aussi la bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut une suite à Farpoint maintenant, ou est-ce qu'on est capable de l'attendre pour le futur casque de chez PlayStation ou chez Sony? Ça, c'est à vous de voir, hein, pour le coup, mais moi, perso, je me dis que, étant le défenseur du jeu fini et non buggé à la sortie, bah, j'ai envie de vous dire, moi, je suis prêt à attendre à partir du moment où c'est pour notre plaisir et que ça ne fera que sublimer l'expérience si elle arrive un jour, quoi. Voilà.
Ouais, mais t'as raison. Moi, tout ce que je leur souhaite, en tout cas, c'est de cartonner avec leur jeu, même si je suis pas client de ce genre de choses. Vraiment de cartonner, de se faire un maximum de pognon pour en puisse ensuite avoir les fonds suffisants pour nous développer justement un Farpoint 2 qui va déchirer sur les prochaines générations de casques. Voilà. Je dis que c'est juste une virgule, histoire voilà, de ramasser du fric et puis de faire après une vraie grosse production derrière. C'est en tout cas tout ce que je leur souhaite. Hein. Donc
Bah
voilà,
ouais.
c'était tout pour l'Arsenault. Ensuite, on a Epic Game. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-dessus?
Alors
Il y a eu.
Epic, ils sont un peu dans le caca, comme on dit, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont en procès avec, comment dirais-je, avec Apple pour des histoires toujours pareil d'argent et notamment de reversion de, on va dire, de droits d'auteur. Pour les entre la partie que prend la plateforme de
Le
diffusion des
pourcentage de
jeux,
la
je vais y arriver,
plateforme
voilà, merci,
et le développeur.
et ce que prend le développeur, voilà. Et donc Epic, ben pour ça, je crois, ils prennent 12% aujourd'hui. Ils annoncent ne prendre que 12% par rapport aux autres. Et en fait, donc, ben, ils sont en, comment dirais-je, en conflit avec Apple pour ces mêmes raisons au niveau de l'Apple Store pour diverses choses, mais la chose qui nous intéresse le plus, c'est que du coup, ben, ce procès-là et des documents, ben, forcément, ont été
Rendu public.
mis à jour, voilà, rendus publics pour justifier de certains choix et de certaines choses. Et en fait, il y a une ligne qui est ben, intéressante et qui nous intéresse à nous. Alors, ça fait suite à ces contrats d'exclusivité dont on parlait là il y a 15 jours sur Resident Evil. Donc ça n'a rien à voir avec Resident Evil, mais c'est un peu le même principe dans le sens où ça parlait de la relation entre Sony, entre PlayStation pardon, et Epic au sujet du cross-platform de Fortnite. Et donc on le sait, PlayStation était réticent à ça. Et en fait, cette histoire de cross-plateforme tenait beaucoup à cœur à Epic, et à juste titre, puisque bah, ça leur permettrait de toucher encore plus de joueurs, dans le sens où bah, n'importe qui peut jouer avec son ami, quelle que
C'est
soit la
ça.
plateforme sur laquelle il joue. Et du coup, bah, PlayStation étant leader sur le marché des consoles, forcément, c'est pas dans son intérêt premier de faire ce genre de choses, puisque bah, on peut dire que ça freinerait clairement les ventes. Ça
Du
peut, enfin.
hardware?
Clairement, ça pourrait empêcher de faire se conclure une vente dans le sens où bah, si un gamin veut Fortnite, bah, tu demandes à maman ou à papa ou à papy ou à mamie ou à qui tu veux la PlayStation, mais si ah, bah, c'est aussi disponible sur Xbox ou sur la Switch, ou voilà, donc tu n'es pas obligé d'avoir une PlayStation. Et du coup, dans ce document, en fait, on a pu voir certaines propositions qu'avait fait Epic à PlayStation pour justement intégrer ce cross-platform, et notamment une qui est la plus intéressante du coup, et c'est Epic. Alors textuellement, c'est écrit: Epic est prêt à explorer plus d'éléments. Peut-être que nous engagerons sur un jeu lors du lancement de votre prochaine plateforme VR. Voilà. Donc ça, c'est des documents qui datent de 2018. Donc c'est aussi important. C'était 2 ans donc après la sortie du PSVR.
C'est ça.
Et donc bah, ça induit une chose qu'on sait déjà, c'est que bah, y a un successeur au PSVR du coup. Mais surtout, bah, ça pourrait peut-être aussi annoncer l'arrivée d'un éventuel Fortnite sur PlayStation VR pour la prochaine génération du casque VR de PlayStation. Voilà. Donc c'est quand même une info, c'est quand même une info assez intéressante, assez forte, parce que comme on dit, depuis longtemps, pour faire vendre des casques, il faut des licences fortes pour, bah, pour pouvoir attirer l'œil des joueurs. Et donc ça pourrait, si jamais c'est vrai, hein, encore une fois, ça pour, enfin si jamais c'est vrai, si jamais c'est ce jeu, pardon, et si jamais Epic poursuivait dans ce... dans cette proposition-là, ça pourrait permettre voilà, d'avoir un Fortnite soit bah, le même converti en VR à 100% ou soit une version VR de Fortnite, ce dont je doute du coup parce que ça briserait un peu la communauté déjà existante. Mais voilà, du coup on a cette idée-là et puis bah, qui sait, peut-être pas du tout Fortnite, peut-être un autre jeu. Et pourquoi pas peut-être une expérience de la démo Unreal Engine 5 en VR, bon, là je rêve.
ça serait bien, ça serait vraiment bien. Après c'est tout à fait possible aussi, hein. Après tout n'est que spéculation là, mais c'est tout à fait possible. De toute façon on avait déjà vu des accointances entre Epic et Sony, notamment sur Fortnite, il y a plein de persos de Sony justement qui viennent un petit peu combler un petit peu le roster de Fortnite. Donc voilà, ça continue. Mais c'est vrai que ces fuites étaient vraiment très très intéressantes. Je sais pas si tu avais vu ou si les, tu sais, les jeux gratuits que tu as toutes les semaines sur Epic à leur sortie. Ouais. Tout ça en fait, ça, c'est les développeurs qui, on va dire, qui vendent leur licence pour pouvoir soit avoir une exclusivité temporaire sur Epic, soit carrément que Epic puisse donner leur jeu. C'est-à-dire qu'il y aura, c'est des contrats qui ne sont pas en fonction du nombre d'unités de jeux vendus. Mais plutôt plus enfin c'est un petit peu, c'est même bien plus compliqué que ça, et tu vois,
ouais,
qu'il y a
c'est de la promo quoi, enfin c'est de clairement la promo. C'est encore une fois ça parle de contrat d'exclusivité temporaire ou mais c'est une ça. Manière de c'est une manière de financer son jeu et de s'assurer un minimum de revenus sur ton jeu, enfin en gros tu négocies la valeur de ton jeu sur une vente promo. Un nombre de ventes infini en fait, voilà. Mais c'est au lieu d'avoir 10 € par jeu vendu, bah tu as une somme très certainement plus importante pour ton jeu, et puis terminé quoi. Après,
voilà. Donc tu as certains développeurs justement indés qui sont bien fait avoir à vendre leur licence à juste 45 000 $, d'autres à plusieurs millions. C'est très disparate, et tu vois que tous les développeurs sont pas logés à la même enseigne.
Bah, c'est un peu le principe, on parle souvent de... Mince,
Game Pass.
Du Game Pass, merci.
C'est ça.
Ouais, c'est typiquement la même chose. Hein. C'est ce genre de contrat qui vont se retrouver pour les revenus des développeurs pour inscrire leur jeu à la plateforme. Ça va être en fonction de la licence, en fonction de l'attente, en fonction du. Bon, après, on le sait aussi, en fonction du nombre de téléchargements.
Et en fonction de la ce que je voulais dire aussi, en fonction de la naïveté ou pas du développeur, hein, parce qu'il y en a certains, ils sont carrément fait avoir. Hein.
Bah, je te dirais, c'est comme tout. Hein. C'est, ah ouais. Ça, c'est quel que soit le métier, c'est souvent. C'est un rapport de force, hein, de toute façon, ça reste de la négociation, au final, c'est, nous joueurs, on ne le voit pas, mais d'un point de vue interne à la société du jeu vidéo, à l'industrie du jeu vidéo, pardon, c'est clairement de la négociation, donc forcément, il y a toujours un rapport de force, et puis bah, y en a un qui... Le but, c'est que chacun y trouve son compte, mais très régulièrement, tu en as souvent un qui est plus lésé que l'autre.
Ah ouais,
après,
mais là,
c'est comme ça.
Là, ça fait mal au cœur, hein. Franchement, pour certains... comme World of Goo et trucs comme ça, ils sont complètement. Après, c'est des jeux aussi qui sont quand même assez vieux. Mais c'est ouais, c'est très intéressant en tout cas, ce genre de document qui puisse être rendu public si vous voulez les retrouver. C'est assez simple sur Internet, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est très instructif en tout cas sur.
Ouais, c'est intéressant, instructif, mais c'est aussi dangereux. Comme on l'a vu, hein, avec ce qui s'est passé pour Resident Evil, quand c'est mal interprété, quand c'est extrapolé. Voilà, enfin, ça reste du business encore une fois, hein, et puis il y en a beaucoup qui ont tapé sur PlayStation parce que voilà, PlayStation ne voulait pas ouvrir le cross-platform à Fortnite et tout ça, mais encore une fois, il faut pas oublier que PlayStation était du coup dans une position de leader pour la PS4, et donc il faut aussi qu'ils servent leurs intérêts, ils sont comme les autres, c'est une entreprise, il faut qu'ils soient rentables, ils ont pas forcément le portefeuille de d'Epic du coup avec Fortnite et
ou de Microsoft.
Ou même de Microsoft.
Ou de Nintendo, qui a un trésor de guerre aussi. Hein.
Oui. Mais voilà, il faut quand même pas oublier ça. Et ça reste une entreprise qui est là pour faire de l'argent et puis bah, pour continuer d'exister, quoi, tout simplement.
C'est ça. Donc voilà, très intéressant. Et bah, si vous voulez en savoir plus, hein, vous retrouvez l'article sur Ver4Player. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer à Gravitational. Alors, c'est un jeu qui doit sortir normalement. J'avais vu ça tout à l'heure.
Le 13 juillet.
Le 13 juillet, merci.
Sur le store. Sur le PS Store, là. Et le 16 juillet en version physique.
Voilà, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Alors, ben, pas grand-chose.
Super.
C'est un jeu donc qui est pas sorti, qui est développé par Electric. Non, c'est l'équipe d'édition. Alors attends, on va recommencer.
Studica Solution. Studica, les développeurs.
Donc c'est un jeu qui est développé par Studica Solution. Solution. Oh putain.
Non, c'est très bien, c'est très très bien. Vas-y.
C'est un jeu donc qui est développé par Studica Solutions et édité donc par Electric Monkey et Superb Games, encore une fois, qui s'occupe de la version physique donc du jeu. Donc qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un puzzle game, encore un. Mais
futuriste.
Je le répète, ça fonctionne très très bien en VR. J'insiste là-dessus parce que je n'aime pas les puzzle games en version traditionnelle, mais par contre j'adore ça en VR.
Ouais.
Donc ça n'a rien à voir. Et donc très futuriste, tout à fait. Qui a une particularité, c'est qu'en fait vous incarnez un personnage qui est dans un fauteuil roulant, donc il ne peut pas se servir de ses jambes. Et bien entendu, ça a un lien avec la gravité. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de résoudre des énigmes qui vont jouer sur la gravité. Ça a l'air plutôt sympa, simpliste dans les textures, encore une fois très très cartoonesque, mais propre en tout cas. Donc c'est toujours pareil, on va faire un peu les curieux et voir ce que ça donne, parce que j'ai envie de dire qu'il y a des jeux pour lesquels on n'attend rien et qui sont parfois très surprenants.
Et que c'est des bonnes surprises, ouais.
Voilà, exactement. Donc, Gravitational, le 13 juillet sur le store et le 16 sur, en version boîte, pardon, sur le net, dans les bonnes crèmeries, je pense. Voilà.
Exact. Celles qui seront ouvertes, en tout cas.
C'est ça.
Voilà, donc, un petit jeu qui nous fait de l'œil et puis qui va certainement être très très sympa. Donc, allez voir sur le site, hein, pour vous faire une idée. Il y a le trailer, il y a l'article, les explications et tout ce qui va bien. Au niveau des news, c'est tout ce qu'il y avait du coup ces deux dernières semaines. Après, on va pas non plus revenir sur des choses comme des mises à jour, Gadgeteer, ça aussi on en avait déjà parlé dans un précédent podcast. Donc bon, on va pas trop revenir dessus, surtout qu'on a.
On a eu des news de Zero Calibur, ouais, dans sa version PSVR. Donc bon, la news importante, c'est qu'il est toujours en développement pour le PlayStation VR.
Ouais.
Mais comme on le sait, enfin, le jeu il tourne déjà sur internet, donc vous avez vu un peu le gameplay. Mais surtout, c'est un jeu qui joue beaucoup sur les armes et surtout la physique des armes. Et en fait, ils ont été très clairs, hein, ils ont du mal avec les PS Move.
Oh, sans deck. Voilà.
Donc du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour eux. Alors ils ont déjà. Alors ça sera pas un jeu compatible avec l'AIM Controller, justement pour cette raison-là, c'est qu'il y a une grosse physique avec les armes. Et du coup, par contre, ils se posent déjà la question en fait de savoir s'ils vont pas directement le porter sur PlayStation, sur le casque de la PS5 avec les nouveaux contrôleurs. Donc est-ce qu'ils vont réellement le sortir sur la version première du PSVR au risque d'avoir une version amputée encore une fois de gameplay à cause des PS Move, ou est-ce qu'ils vont attendre? Ça reste le même discours que pour ce qu'on parlait de Farpoint tout à l'heure. S'il doit y avoir une suite, autant qu'elle sorte mieux sur le prochain casque
au petit.
Est-ce qu'il faut s'orienter là-dessus? C'est toujours pareil, le parc installé de PlayStation VR actuel est plus une meilleure cible, on va dire, que le futur parc éventuel de PSVR 2.
C'est un pari, hein.
Voilà, c'est toujours pareil. Bon, après, on peut pas dire que le jeu n'ait pas fonctionné sur PC ou qu'il fonctionnera pas dans sa version PCVR. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de choix, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le jeu est toujours en développement et puis ça sortira donc sur PlayStation VR ou sur son successeur. Voilà.
C'est vrai que je pense que l'annonce des contrôleurs, des nouveaux contrôleurs du prochain casque de Sony, ça a dû quand même avoir un signal fort chez les développeurs qui avaient des productions en cours, ou en tout cas qui comptaient adapter leurs jeux sur PSVR, en se disant, mais est-ce qu'on va continuer à se faire chier, à essayer de trouver des solutions pour essayer de faire fonctionner convenablement les PS Move actuels et adapter notre gameplay, ou est-ce que tout simplement bon, on prend un peu plus le temps et puis on va, comme je disais tout à l'heure, on va faire le pari pour le sortir sur une nouvelle génération avec des contrôleurs un peu plus classiques, quoi.
En termes de codage, je sais pas trop ce que ça représente comme travail, comme quantité de travail, mais le travail a déjà été amorcé, je dirais la voie a déjà été montrée par plusieurs autres développeurs. Sur quelles sont les touches, les boutons ou les manières de se déplacer qui fonctionnent le mieux avec les PS Move. Donc là-dessus, je sors toujours Sense and Sinners qui est quand même ultra bien optimisé pour les PS Move. Je sors No Man's Sky aussi qui est quand même. Alors lui, c'est aussi son interface qui fait que, comme c'est un jeu futuriste, tout se fait au. On dirait jeu pointeur, hormis les déplacements, tout ça, mais ça fonctionne, encore une fois, c'est des gameplays qui fonctionnent quand même sur les PS Move, donc c'est, encore une fois, c'est au bon vouloir de développeurs, c'est, comme tu dis, c'est est-ce qu'ils vont avoir envie de se faire chier, peut-être pas, mais bon, après, il faut savoir se faire du mal, des fois, pour sortir quelque chose de bien et de fini.
Il faut souffrir pour réussir. Mais je sens ta petite pointe de sarcasme quand tu dis ça, Majo.
Pas du tout.
J'ai bien compris.
C'est pas du tout mon genre.
D'ailleurs, je me suis fait un petit pari avec moi-même de pas sortir le nom de ce jeu. On sait très bien de quel jeu on parle.
Ce sera ton vol de mort.
Parce que à chaque podcast, je m'auto-soule avec ça, je le sors tout le temps.
Tu veux parler donc de Robinson cette journée?
Absolument pas. Non. Je veux parler d'un très très bon jeu, l'un des meilleurs jeux du PSVR.
Tu vois, même sans prononcer son nom, t'es obligé d'en parler.
Toi-même, tu sais. ok, très bien. Et écoute, donc c'est tout pour les news.
C'est pas mal. Bon, il y a eu aussi Discord et PlayStation qui ont annoncé un partenariat. Voilà. Ouais. Je suis pas trop au parfum de tout ça, donc je veux pas dire de bêtises.
Il y a l'article,
mais ça fait partie tout à fait, mais j'ai pas suffisamment de mémoire pour avoir synthétisé la chose, donc je préfère pas en parler. Après, si tu connais plus ce sujet que moi, vas-y, fais-toi plaisir.
Tout ce que j'ai à dire, c'est que Discord ça a le bon goût de pas être Facebook, donc maintenant on est dessus et qu'il y a des gens qui sont cool et qu'on peut discuter, il faut venir nous rejoindre, et c'est qu'en plus maintenant ça va être intégré à l'interface de Sony. Justement pour pallier au groupe qui avait été à toute la partie communautaire qui avait été virée il y a quelques semaines de la PS4 et qui n'était pas sur la PS5.
Oui, la zone communauté n'existe plus, oui, tout à fait.
Voilà, donc je pense que c'est Discord qui va remplacer ça. Ça va être du coup tout centralisé dessus. C'est un très bon outil, ça fonctionne très très bien. Et donc voilà, donc je pense que ça sera bien. Et on pourra surtout plus en parler quand ça sera effectivement en place. Et quand ça sera du 100% sûr et qu'on verra à l'usage ce que ça donne sur PS4 et sur PS5. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose.
C'est une bonne nouvelle. Chose.
Exactement. Et ben, on va passer au test, si tu le veux bien maintenant.
Eh bien, écoute, avec plaisir. Voilà. Je te laisse commencer, d'ailleurs.
Allez, je vais commencer.
Tu vas nous parler de quel jeu, Sei?
Je vais vous reparler à nouveau, maintenant que c'est du concret sur PSVR, de Layers of Fear. Donc j'en ai déjà parlé au précédent podcast, tout l'amour que j'ai pour ce jeu que j'adore, qui est donc un walking simulator horrifique de Bluebird Team, donc qui est sorti là sur PSVR au prix de 19,99€, avec une superbe ambiance, avec une super bande son, une mise en scène qui laisse jamais le joueur s'ennuyer. En fait, il y a tout qui change, le décor qui change, il y a des trucs bizarres qui se passent, il y a des jumpscares, il y a une histoire à suivre avec des documents, des voix qui te parlent, c'est passionnant, c'est torturé, c'est génial, t'as une super ambiance. Mais le problème, c'est que sur cette version PSVR, le jeu n'est pas bon. Il y a beaucoup de problèmes dessus. Alors ça vient pas justement du fond du jeu qui reste une référence dans les jeux d'horreur, qui est en plus ultra efficace en réalité virtuelle. Maintenant, le problème, c'est que le jeu, techniquement, il vaut pas tripette, en fait. Il tient absolument pas la route. Donc j'ai refait le jeu.
Il faut préciser, Sei, que tu as fait l'acquisition, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais on va le repréciser, tu as quand même fait l'acquisition d'une version pro de ta PS4. Oui. Tu as cédé donc à la pigeonnerie, comme tu le disais.
Pigeon. Master Pigeon.
Il y a quelques années de ça. Ouais. Donc tu joues avec, entre guillemets, une version optimisée ou la meilleure possible du coup de l'expérience ouais. PS4 en VR. Quoi.
Et ça me fait mal. Oui, donc PS4 Pro que j'ai acheté à cause du jeu dont je ne citerai pas le nom pour avoir une version encore plus belle que sur PS4 normale. Et donc il n'y a pas de patch particulier pour la PS4 Pro. C'est ultra moche. On va commencer vraiment par le premier truc qui te saute aux yeux, c'est que le jeu est extrêmement flou. La résolution est très très basse. Il n'y a pas d'effet de lumière que tu pouvais avoir sur le PC. D'ailleurs, oui, sur la chaîne Vrac, j'avais fait une petite vidéo de gameplay sur la version PC avant la sortie du jeu sur PSVR. Donc j'ai pu vraiment comparer une version, on va dire, opti, même si la version PC n'est pas parfaite non plus, par rapport à cette version PSVR. Et ouais, non, c'est flou, tu vois pas le fond des pièces, t'as l'effet un petit peu Afterlife, tu vois pas le fond des couloirs, tu vois, de temps en temps. T'as un espèce de brouillard de guerre qui se met. Le jeu est aliasé à mort, t'as des effets d'escalier de partout. C'est vraiment une horreur. Les textures sont baveuses, des fois elles sont carrément absentes. Les effets sont plutôt bien rendus quand même dessus. La mise en scène est toujours aussi efficace. Mais enfin, le problème, c'est que voilà, c'est le moteur, il est quand même assez vieux hein, de ce jeu, hein, Layers of Fear. Ils auraient pu quand même essayer de l'adapter un petit peu mieux. Après, le jeu est patché, j'espère qu'il va y avoir des améliorations à ce niveau-là. Mais en tout cas, en l'état de sa sortie, je peux pas conseiller ce jeu, malheureusement. Vraiment,
Est-ce qu'il a été porté par le studio lui-même ou est-ce qu'ils ont sous-traité aussi le développement du jeu?
Il me semble que oui, alors ça je t'avoue que je me suis pas trop intéressé à ça, mais il me semble que oui. Hein.
Parce qu'on avait eu le problème sur Respire One notamment, alors je me rappellerai plus du nom du studio, mais qui avait sous-traité avec un autre studio de développement chinois pour la version PSVR de leur jeu, et puis ça avait été une catastrophe. Quoi.
Ouais, non ça franchement je vais pas te dire de bêtises, je sais pas, mais en tout cas c'était eux qui avaient fait la version sur PC. En VR, donc j'imagine que c'est eux également qui ont fait cette version PSVR, mais sans vraiment l'affirmer. Donc il y a ça comme problème déjà, donc c'est extrêmement moche. L'autre énorme problème du jeu, c'est ses contrôles. Là, tu vois, ils auraient pu quand même, comme tu disais tout à l'heure, prendre l'exemple sur des jeux qui fonctionnent avec les déplacements libres avec les PS Move. Là, ils l'ont pas fait, hein, clairement, c'est. C'est 38 tonnes simulateur, quoi, le truc, c'est pénible. Tu peux straffer, t'as des rotations angulaires, donc t'avances en appuyant sur le bouton PlayStation de ton move droit. Mais ça marche pas, et en plus, le problème, c'est que en fait, tu te perds dans les commandes très très régulièrement. Alors, heureusement, le jeu est lent, t'as pas de danger, t'as pas besoin d'avoir des réflexes de ninja à certains moments. Mais n'empêche, tu dois pouvoir essayer de te déplacer avec aisance dans l'environnement, surtout que le jeu essaie de te perdre, tu dois souvent te tourner pour que le décor change, pour qu'il y ait la mise en scène qui se mette en route. Et là, ça marche pas super bien, hein, que le fait, tu vois, d'attraper une poignée de porte, et tu galères. Des fois, moi, je straffais alors que je voulais juste faire une rotation. Ça m'est souvent arrivé. Où j'avance beaucoup trop, je suis complètement contre la porte, le nez dessus, alors t'es obligé de reculer, alors tu galères pour essayer de trouver ton bouton pour le recul. Aussi un autre souci, c'est que comme il y a...
Pardon, c'est typiquement des problèmes de PS Move, complètement.
C'est ça, ouais, c'est ça, quand tu passes du stick à rien, forcément c'est toujours un problème. Et puis un autre truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de décors dans le jeu, donc des tables basses, des lits, des machins, des caisses, n'importe quoi. Le problème, c'est que quand tu vas vers un objet comme ça, au lieu de glisser dessus pour quand tu te déplaces, là ça te stoppe net. Dès que tu touches un tout petit bout d'un objet du décor, ça te stoppe.
Alors t'es obligé de trouver. Il y a un problème de physique aussi ou de hitbox en fait, du coup des.
Ouais, c'est ça. La hitbox en fait,
objets,
des objets
qui t'entourent.
Te bloquent. Voilà. Alors que si t'avais pu justement juste glisser dessus, ça aurait permis d'avoir des mouvements un petit peu plus fluides.
Alors ça, tu vois, c'est marrant parce que, de mon point de vue, ça c'est un problème de développement. Ça n'a rien à voir avec les contrôleurs, du coup.
Oui. Bah, là, le problème des contrôleurs, c'est qu'ils sont absolument pas instinctifs et ça fonctionne pas. Et oui, après, le souci, c'est vraiment la fluidité des mouvements qui sont pas forcément liés, eux, au contrôleur, mais plutôt au jeu lui-même, quoi.
Donc, mais du coup, ce problème-là, tu l'avais dans la version PC aussi, ou c'est spécifique à la version PSVR ?
Eh ben, ça m'a moins choqué. Alors, franchement, je ne me souviens pas. Pourtant, je l'ai fait il y a pas longtemps, mais je ne me souviens pas avoir été emmerdé par les objets du décor sur la version PC. Je pense une simple et bonne raison, c'est que même si j'étais bloqué une microseconde en fait avec le stick, tu te déplaces, tu sais où est-ce que tu vas, et de toute façon, même tu t'as pas à rentrer dans les meubles, alors qu'avec les moves, vu que t'es pas vraiment maître de tes mouvements, et bah tu rentres dedans et t'es bloqué, quoi.
Ah, j'avoue, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, encore une fois, si c'est un jeu qui était ultra quali et qui n'est pas dans le. Alors, hormis les contrôleurs, mais même la partie technique qui n'est pas du tout la même version que sur PC, j'avoue que c'est dommage. Maintenant, est-ce que tu n'as pas le sentiment aussi d'être déçu par cette version parce que la version PC était meilleure? Parce qu'il faut aussi partir du principe que ceux qui vont jouer à ce jeu. N'ont peut-être jamais essayé la version PCVR et vont le trouver un peu plus qualitatif.
Franchement, casque sur la tête, je suis plutôt du genre à être assez bienveillant sur les jeux qui sont un petit peu légers techniquement, sur le PSVR par rapport au PC. Je sais que les beaux graphismes ne font pas forcément de bons jeux. Là, c'est même pas une question de
frustration.
Voilà, c'est pas une question de frustration. Là, c'est vraiment que le jeu n'est pas optimisé pour la PS4 Pro, en tout cas ça c'est sûr, et je pense même pas pour la PS4, qui est capable de faire des jeux bien plus beaux que ça, mais bien plus beaux.
Est-ce qu'on t'a parlé de Robinson Zoo de Journée ?
Oui, ouais, c'est votre jeu référence. Moi j'en ai un autre, mais je peux pas dire son nom.
Pour un Walking Simulator qui lui date de 2016, encore une fois, Robinson, c'est la même chose, hein, c'est un walking simulator, hein, tu escalades, t'as vraiment pas beaucoup d'interactions, tu scannes de l'environnement, tu récupères des informations, tu te balades dans différentes zones. Là, on est clairement sur la même chose, mais dans un environnement sombre, donc on sait tous que les environnements sombres demandent moins de ressources que les environnements colorés, ouverts et de jour. Et on se retrouve avec quelque chose du coup qui est vachement moins qualitatif dans sa réalisation, quoi.
C'est ça.
Alors après ils ont peut-être pas le même budget, mais c'est quand même dommage de passer d'un extrême à l'autre pour le coup, parce que qu'il n'y ait pas le même budget, qu'on n'ait pas autant de détails, ou que ce soit pas aussi fluide que ce qu'a pu être Robinson à l'époque, ok. Mais il y a quand même un juste milieu. On peut avoir des textures qui sont simples, mais avec un rendu net, surtout dans un jeu horrifique comme celui-là, où voilà, encore une fois, l'environnement est très sombre.
Mais le problème, c'est que c'est les textures même sont baveuses. Et je te dis, des fois, il y en a même pas des textures en fait. Hein. Tu t'approches des murs, tu t'approches des tableaux, c'est pas net. C'est pas du tout net. Je suis désolé. La PS4 est capable d'envoyer plus du steak que ça. J'ai l'impression qu'ils ont eu je peux pas critiquer les développeurs parce que c'est un métier qui est compliqué, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris vraiment le potard et qu'ils ont tout mis en lot, mais vraiment en maxi lot, et qu'ils ont envoyé ça comme ça à l'arrache sur PSVR, et puis ça passera de toute façon, c'est un vieux jeu, et puis basta.
Donc, c'est un vieux jeu sur une vieille console avec un vieux casque.
Avec un vieux casque.
Et des vieux contrôleurs.
Et des vieux cons.
Et des très vieux contrôleurs.
Et des très vieux contrôleurs. Donc voilà, non, franchement, je suis vraiment dégoûté. Et en plus, il y a un truc, voilà, il n'y a pas que ça comme problème. Hein. Il y a aussi un problème de glitch. Hein. Il y a des gros glitchs, des gros bugs. Et c'est pas du petit bug marrant, c'est du gros bug genre t'as les textures des murs qui s'effacent, qui disparaissent. Donc les textures des murs s'effacent, mais leur hitbox aussi, c'est-à-dire que tu peux passer à travers.
C'est pas un glitch, c'est. À l'époque, on appelait ça un passage secret.
Ah, c'est un passage secret. Il y en a un paquet de passages secrets dans le jeu, tu peux te dire. Non, vraiment, c'est choquant. En plus, alors on voit bien la différence avec la vidéo de gameplay que j'ai fait sur Vrak et puis le passage sur la vidéo de test sur la chaîne principale. C'est justement le même passage, c'est-à-dire qu'il y a un passage que j'ai fait sur PC qui se passe bien, et la même version sur PSVR. Quand on récupère une clé sur le mannequin d'un bébé mannequin, je me suis retourné, j'avais un écran noir en fait, j'avais juste l'encadreur de la porte et puis tous les murs autour, hop, complètement disparu, c'est, j'avais juste du noir. Vous voyez ce qui se passe derrière le décor. Et le truc c'est que je pouvais aller dedans, il y avait des portes, je pouvais ouvrir les portes et ça skippait complètement une séquence du jeu. Donc
c'est quand même j'ai envie de te dire que c'est un portage pas fini.
Là c'est pas fini, non, clairement c'est pas fini. Là je suis d'accord avec toi pour le coup. Parce que non, c'est pas normal. Tu t'achètes ton jeu 20 balles, ah, tu veux quand même avoir un. Pouvoir en profiter, quoi. Même s'il est moche, même si les contrôles sont un petit peu lourds, tu veux pas que t'aies des parties de ton jeu qui soient complètement skippées, voire même que ce soit bloquant pour la progression. C'est pas possible, tu fais des tests pour ça. Donc là, non, clairement, le jeu est patché, il a déjà eu un premier patch. Il y en a certainement d'autres qui vont arriver après. J'espère que ça va corriger quand même pas mal de choses. Je pense pas que ça va changer ce qui va pas dans le cœur des contrôles, comme on disait tout à l'heure. Mais au moins cette histoire de glitch, c'est pas possible, quoi.
Bah, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent dans le développement d'un jeu. C'est qu'avant que le jeu soit mis en vente, il y a quand même des gens qui les testent.
Bah oui, normalement.
Et comment tu peux passer outre ça? Enfin, comment tu te dire tu sais, c'est le fameux David Godenos. C'est comment ouais. Comment tu peux te dire c'est bon, ça va passer.
C'est bon, ça passe.
C'est totalement ça en fait. Finalement, on est sur un jeu qui est comme ça. C'est bon, c'est sur PSVR, ça va passer. Ouais. Donc
ils vont croire que ça fait partie de la mise en scène. Parce que le problème en plus de ces glitches là, c'est que vu que le jeu veut rendre le joueur un petit peu mal à l'aise, tu vois, changer les environnements. C'est typiquement le genre de jeu, quand tu te retournes, la porte par laquelle tu viens de passer, elle n'existe plus, tu vois, c'est un autre décor qui est à la place, c'est un cauchemar, tu vois. Quand tu tombes sur ce genre de bug, tu te poses la question à un moment, tu dis...
Ouais, c'est ça, est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est un bug,
c'est voulu, ça, ou pas. Et puis, tu te rends compte que pas du tout, quoi. Et le problème, c'est que je suis sûr, c'est un petit peu comme les speedrunners, tu vois, qui utilisent... Qui essaye de faire bugger la RAM pour skipper des parties du jeu, ou tu sais aller de faire du out of bound, c'est-à-dire de partir de l'autre côté du décor pour pouvoir
skipper. Ouais, il glitch de toute façon, il glitch à mort.
Hein. Et bah là c'est typiquement ça, quoi. Genre je me suis baladé quand j'ai eu j'ai eu deux bugs comme ça, mais j'en ai eu vraiment un bien sévère. Il y avait des portes dans le fond, je me suis dit tiens, normalement il n'y a pas de porte à cet endroit-là, tu vois. J'ouvre la porte, hop, j'arrive 5 minutes plus tard dans le jeu, parce que je me souvenais que je venais de le faire sur PC, et je me souvenais ce qui se passait entre ces deux séquences là. Et à la limite pour les speedrunners de Layers of Fear VR, ça peut être pas mal, hein, mais non, pour le joueur normal c'est quand même très 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 moyen.
Enfin, le speedrunner qui fait Layers of Fear avec des PS Move, il est pas garanti d'aller très vite, quand même.
Non, je pense s'il se plante à chaque meuble, c'est vrai que ça va pas être terrible. Eh mais voilà, tu vois, c'est extrême. Enfin, j'ai éprouvé une extrême frustration de tester ce jeu-là sur PSVR et de devoir lui mettre une note. Parce que j'adore Layers of Fear, j'adore son ambiance. Je trouve que c'est un jeu qui était vraiment un chef-d'œuvre à sa sortie, déjà sur plat, que j'ai kiffé sur PCVR et que j'aurais vraiment aimé kiffer à nouveau sur PSVR. Malheureusement, non, quoi. Et après, ça enlève pas toutes les qualités intrinsèques du jeu, c'est-à-dire un très bon scénar, une super ambiance. Une mise en scène qui tu vas d'étonnement en étonnement, quoi, il t'en met plein la gueule. Une belle histoire, belle musique, mais le problème c'est que voilà, c'est faut que ce soit jouable, et là ça l'est à peine, hein. Donc c'est vraiment dommage. Donc j'ai fait le test, j'ai donné mon avis, et je suis tellement dégoûté que je lui ai mis un 5, parce que
j'allais te demander combien tu lui avais mis, du coup.
Voilà, les 5 points, c'est vraiment la base du jeu qui est vraiment exceptionnelle, et malheureusement tous ses défauts, tous ses glitches, c'est son aspect dégueulasse et ses contrôles pourraves, ça lui vire facile, ça m'a gâché mon plaisir, donc voilà.
Est-ce que tu as quand même des points positifs à lui donner? Parce que depuis tout à l'heure, tu lui trouves que des points négatifs.
Bah, j'en ai donné plein, des points positifs. Hein. Super ambiance, super scénar, super musique.
La musique, t'en as pas parlé.
Ah bah si, bah oui, parce que j'en ai parlé dans le test. Mais oui, c'est les mêmes musiques que le jeu d'origine. Hein. Donc j'avais réussi à le dire dans le test sans bafouiller. Arkadiusz Rejkowski qui les a faites. C'est des
musiques. Tu t'en sors bien.
Ah, t'as vu, très mélancolique au piano et orchestral, et qui sont parfaitement composés, qui sont parfaitement mis en scène aussi, qui qui apparaissent dans certains moments justement pour appuyer une certaine tranquillité et qui après vont se vont glitcher elles, mais elles, enfin ça va être fait exprès pour te balancer un jumpscare.
Il y en a pas mal. Ça a l'air d'être bourré de jumpscares.
C'est bourré de jumpscares, c'est bourré vraiment de petits passages où si tu mets le son assez fort dans ton casque, ouais, t'as ton petit cœur qui palpite quand même.
Après, combien de temps il dure le jeu ?
Il dure 5-6 heures à peu près. Entre 4 et 6 heures, ça dépend en fait. T'as pas beaucoup d'énigmes, mais t'en as certaines qui peuvent te bloquer un petit peu si t'arrives pas à comprendre direct, mais bon, c'est quand même assez simple, t'as pas vraiment de challenge en fait, c'est tu t'avances, tu subis, voilà, donc en fait toutes les qualités du jeu, c'est les qualités que le jeu avait déjà dans sa version originale en plat, c'est-à-dire que c'est un excellent jeu, un excellent walking simulator d'horreur. Il y a des jeux après qui sont sortis comme Affected the Manor qui sont justement des enfants de ce jeu là
Mais qui sont mieux réussis quoi.
Mais si, qui sont plus réussis. Alors voilà, c'est un jeu que j'adore. je me répète, hein, c'est vraiment un jeu que j'adore.
Mais dans sa version PC.
Et mais je suis dégoûté de le voir dans cet état-là. Voilà. Donc après, Bloober Team, on sait qu'ils aiment la VR hein, parce que c'était un petit peu le thème du jeu qu'ils avaient sorti après avec Observer. On sait qu'il y a Blair Witch qui est sorti sur Quest. Et qui doit, j'espère en tout cas qu'il va sortir dans une version PC plus tard, voire même PSVR, même pour PSVR 2.
Ah ben alors, si je peux me permettre, vu l'état de la version PS4 de Layer of Fear, il y a de fortes chances que Blair Witch soit sur PC dans le même état que la version Quest.
Oh, putain, mais ça me ferait bien chier. Ça me ferait bien chier avec
s'il facilite le travail en faisant comme ça, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons pour qu'il fasse la diff. Mais d'ailleurs,
c'est dommage.
Il n'y a pas un jeu. Mais si, c'est le Wraith The Oblivion Afterlife que tu as testé l'autre jour, ou qui est exactement le même dans sa version PC que dans sa version Quest d'ailleurs.
Ouais, d'ailleurs, faut que je termine le
même
le
type
montage.
De jeu.
Ouais. Faut que je termine le montage d'ailleurs, on a fait une vidéo avec Steph, faut que je finisse le montage pour le mettre sur le site.
Ah, j'ai spoilé.
Bah ouais, non mais c'est pas grave. Et du coup ouais, effectivement c'est le même problème, c'est que le jeu Quest qui est très épuré, il y a quasiment pas de décor. Après j'en ai parlé à la dernière émission avec Laurent. Ben c'est la même version que sur PC, et c'est dommage quoi. Non mais ce qui est frustrant avec Bloober Team, c'est que c'est un putain de studio de développement quoi. C'est des gens qui sont talentueux, qui ont des bonnes idées, qui sont pas mauvais normalement techniquement, sauf que ils ont de l'or dans les mains. Leur jeu, c'est des très bons jeux. Ils ont de l'or dans les mains, faut pas qu'ils fassent des portages comme ça dégueulasses. C'est pas possible. Comment est-ce que tu peux d'un produit qui est très bon au départ en faire un truc dégueu à la fin? C'est pas normal. Donc non, faut vraiment qu'ils se foutent un coup de pied au cul, parce qu'effectivement si un Blair Witch nous le sortent la même version que la version Quest avec des arbres qui pop à 10 mètres et qui nous sortent en plus une version plus floue à cause de la résolution avec des contrôles qui sont pas bons sur PSVR, la première impression c'est quand même le plus important hein, dans un jeu, et ça sera que desservir en fait ce studio qui a...
Non bah après je pense pas qu'ils vont le faire moins beau que sa version Quest. Ce que je voulais dire c'est qu'ils vont pas forcément trop se fouler pour sa future adaptation sur les autres plateformes VR. C'est juste ça en fait que je voulais dire. Je dis pas qu'ils vont le saborder et faire un truc encore moins joli que ce qu'il est déjà. Non.
S'ils sortent la même version que Quest sur PSVR, il sera forcément moins joli parce que la résolution sera moins bonne à cause de la dalle.
Donc, oui.
C'est ça que je voulais dire. Donc, et les contrôles seront moins bons à cause des PS Move. C'est qu'on le veuille ou pas, de toute façon, c'est le boulet du PSVR. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, il sera toujours moins bon que sur Quest, quoi. Et c'est faut pas aller dans cette optique-là, je pense, surtout pour un développeur de talent comme eux, quoi. Déjà qu'ils nous sortent Observer, même sur PS5 en VR, là, moi je serais aux anges, hein, parce que c'est un chef-d'œuvre, hein, ça aussi. Ils font que des très bons jeux, hein, mais. Pff.
Attends, tu nous disais la même chose de Layer of Fear.
Bah ouais.
Donc. Bah ouais, attention, pas trop d'espoir. Le mieux, c'est de rien attendre, comme ça t'es jamais déçu.
Ouais, ça, t'as pas tort. Mais bon, Voilà, je suis déçu. Je suis déçu, je suis emmerdé. Donc voilà, 5 sur 10. À vous de voir si vous avez, si vous avez le courage ou alors la foi dans les patchs pour tenter l'aventure.
5 sur 10, il a quand même pris 3 sur 10 en graphisme. C'est quand même assez rare pour être souligné.
Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, vraiment. Il est vraiment dégueulasse. Donc voilà, bon. À vous de voir si vous voulez tenter la haute chance. Laissez sa chance à super jeu, mais qui est pas bon techniquement. Allez, je pense qu'on a déjà suffisamment parlé de Layers of Fear. Maintenant, on va parler. Tiens, si on parlait d'un bon jeu, quoi, ça pourrait être pas mal, ça.
Bah ouais, écoute, hein, on peut. Si on parlait de Hitman 3, non, je connais.
Chut, me lance pas là-dessus, me lance pas là-dessus, fais pas le con.
Ah, je t'ai obligé. On va parler d'un bon jeu, écoute.
Meilleur jeu PSVR. Ouais,
franchement, alors, c'est pas le meilleur jeu PSVR, faut pas exagérer non plus.
Je parlais de l'autre jeu.
Robinson's The Journey.
Ah non, pas celui-là, non.
Du coup.
Non, l'autre. Non, ça va être compliqué, coup, là, vas-y.
C'est pas le meilleur jeu PSVR, mais ça en fait clairement partie. Donc j'ai fait le test avec Laurent. Laurent a fait la partie écrite et j'ai fait la partie vidéo. Et du coup, on est tombé. Alors, comme il disait, on s'est pas concerté outre mesure dans durant le jeu ni sur nos avis avant le final. Et on est tombé assez d'accord sur le fait que c'est un très bon jeu. Alors, Mask Maker, c'est quoi? C'est Inner Space. Inner Space, c'est qui? Inner Space, c'est A Fisherman's Tale, qui était déjà un très bon puzzle game, pas très compliqué et assez court, mais qui était très bien réalisé, avec surtout une partie de gameplay très originale.
Et si vous voulez, juste à parté, si vous voulez savoir plus, on avait reçu Balthazar Oxietre, notamment, donc, qui est aussi sur qui est le game director de Mask Maker, et c'était l'émission numéro 8 d'Autour d'un VR. Donc voilà, c'était une émission qui était très sympa, avec ils étaient bien cool, et donc ça s'était bien passé.
Et, c'est vrai,
et donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur leurs anciennes productions, et allez vite écouter l'épisode numéro 8.
Voilà, du coup, donc ouais, Fisherman Tales, pardon, qui avait une particularité dans son gameplay, c'est qu'il jouait sur les rapports d'échelle, en fait. Donc il y avait trois plans différents de la même scène qui permettaient de faire apparaître des objets soit dans une taille plus petite ou plus grande que l'échelle à laquelle vous étiez. Et tout le gameplay était basé là-dessus. Et avec Mask Maker, du coup, ils ont fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une phase de gameplay propre à eux, on va dire, qui s'articule autour de la création de masques en bois et qui permet en fait de voir sous plusieurs plans et angles de vue. Alors du coup, c'est quoi l'histoire en fait de ce jeu ? Parce qu'il faut quand même ce gameplay est très atypique et il faut quand même l'introduire dans une histoire. Et ça déjà c'est une des choses à laquelle ils ont magistralement réussi. Alors c'est quand même simple dans le scénario, mais c'est bien amené et c'est cohérent. Voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est que c'est cohérent. Du début jusqu'à la fin, c'est cohérent, et c'est une belle histoire, c'est pas quelque chose de cynique ou quoi que ce soit, donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait du bien à entendre, et puis ça se tient du début jusqu'à la fin, et on a toujours cette envie d'en savoir plus. Donc, en fait, un jour, vous assistez depuis l'extérieur à une dispute entre un apprenti et son maître créateur de masques. Et puis, au bout d'un moment, la dispute devient un peu plus violente et puis plus un bruit. Et en fait, la porte de cet atelier s'ouvre, vous rentrez et puis en fait, il n'y a personne. C'est un lieu qui est un petit peu, on va dire, délabré, à l'abandon. Et puis, y a des voix qui commencent à murmurer à l'intérieur de notre tête. Et puis, ils font un espèce d'échange et puis on sent que, on est le sujet de leur conversation. Et puis, de fil en aiguille, l'histoire va t'amener à résoudre ta première énigme. Cette première énigme résolue, en fait, tu vas te retrouver dans un atelier de créateurs de masques. Et tout le jeu commence ici. Et en fait, cet atelier, en gros, ça va être le hub, on va dire, de ton personnage. Et tu vas avoir un atelier, donc, de... Alors, je sais pas comment on appelle ça... Je crois que c'est un piqueur, mais je suis pas sûr. Qui avec un ciseau à bois et un marteau, confectionne le masque. Et donc tu vas avoir un plan au préalable, il va falloir confectionner le modèle de l'empreinte, on va dire, de ton masque. Et une fois cette empreinte faite, après tu vas à l'atelier derrière confectionner ton masque, lui ajouter des artefacts, le peindre, etc. etc. Et donc ça c'est une première partie de gameplay qui est très intéressante. Parce que bon, ça reste quand même très simpliste dans la confection, hein. Surtout au départ où tu ne seras limité qu'à la peinture, après tu vas ajouter quelques objets, après tu vas avoir un rehausseur d'objets que tu pourras mettre à certains endroits, et aussi de la peinture, et ça j'ai trouvé ça magnifique. Et bon, même si c'est simple pareil dans la conception, mais j'ai trouvé ça
Mais c'est sympa,
super intuitif quoi.
C'est exactement, c'est ça fonctionne bien au niveau des contrôles, ça fonctionne super bien, c'est agréable à faire en fait. T'es comme ça avec tes petits pinceaux et tout, tu mets tes petits coups de pinceau et ça marche super bien en fait.
Et du coup, donc, en quoi ça consiste en fait ? Donc, tu vas créer ton premier masque. Ce premier masque, en fait, va, on va dire, vivre. Donc, il y a une espèce de lumière, de flash lumineux qui va jaillir de ses yeux. Et à partir de là, tu as compris donc, que ton masque est actif. Tu vas pouvoir le mettre. Et dès que tu le mets, en fait, tu te retrouves dans un univers totalement différent. Et ça, c'est une autre phase très importante du gameplay. Et aussi techniquement assez impressionnante, c'est que ça s'apparente, on va dire, à des changements d'environnement sans temps de chargement. Alors, la première fois que tu vas mettre le masque, alors le jeu est divisé en plusieurs zones, la première fois que tu vas mettre le masque, que tu vas arriver, donc on va parler du masque de l'archipel qui est le premier, tu vas avoir, on va dire, 3 secondes de temps de chargement en écran noir avec un petit masque, et ensuite tu arrives dans l'environnement. Et donc tu es toujours dans une pièce plus ou moins fermée, avec une légère ouverture où tu vas voir un petit peu sur l'extérieur. Et malgré ça, tu vois quand même que les textures pop le temps qu'elles se chargent.
Ouais.
Mais c'est quasi instantané. Et en fait, à partir du moment où ce chargement, on va dire, premier est fait, tu vas pouvoir enlever et mettre ton masque à volonté, on va dire, et que tu n'auras plus ce temps de 3-4 secondes de chargement, ni cette partie popping des textures. Et ça, c'est très très impressionnant, et c'est une phase super importante du gameplay. Voilà.
Techniquement, c'est assez balèze. C'est vrai qu'après, vu qu'il y a beaucoup de... Bah, c'est finalement du TP, hein. C'est du TP, tu changes de masque, tu changes de lieu dans les environnements, tu peux même carrément changer d'environnement, et c'est vraiment super fluide, hein. Techniquement, oui, c'est assez balèze quand même.
Là-dessus, c'est impressionnant parce que bon, moi je l'ai fait toujours pareil, je l'ai fait sur PS5, donc j'ai pas essayé la version PS4, mais ça a l'air sensiblement d'être la même chose d'après ce qu'en disait Laurent. Tu me dis si je me trompe, Sei. Mais cette partie-là, du coup, est très importante dans le gameplay et fonctionne extrêmement bien. Ce sentiment de pouvoir changer de zone et de point de vue à tire-larigot en enlevant son masque à volonté, c'est vraiment quelque chose de très plaisant à jouer.
C'est ça. Moi, je l'ai fait sur PC et ça marche bien. Après, j'ai les mêmes soucis de petit temps de chargement, donc je pense que c'est vraiment lié au jeu plus que... Même plus qu'à la bécane, en fait.
C'est difficile de faire de l'instantané à partir du moment où le jeu est quand même très joli. Il est, alors, encore une fois, très simple dans son texturing, dans ses textures, mais il est très propre, pas flou, pas aliasé et très coloré. Donc c'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, fonctionne bien. Un aspect là aussi cartoonesque, comme je parlais de l'Arsenal tout à l'heure. C'est un aspect cartoonesque, mais qui a quand même une identité propre, et surtout chaque environnement est radicalement différent, mais toujours aussi joli. Alors je vais spoiler un peu, sauf le niveau de la mine que j'ai trouvé bien en dessous des autres, mais il y a quand même une histoire de couleurs, ça reste toujours agréable et plaisant à l'œil à regarder, et ça te donne encore une fois envie d'en découvrir plus quoi.
Moi c'est le monde de où il y a le plus d'arbres, pour pas en dire trop, où j'ai eu l'impression de temps en temps d'être dans un jeu de Dreams, je sais pas, la texture du feuillage.
Oui, pour moi oui, tout à
c'est
fait.
Le côté un petit peu éthéré, ça faisait vraiment penser à Dreams.
Je suis d'accord, c'est vrai. Ouais, on est sur le même type. Ouais, tout à fait.
C'est un parti pris après.
Même les mouvements et tout. Ouais, de toute façon, C'est une fresque, hein, clairement, hein, c'est quelque chose d'artistique, donc je pense que c'est aussi un peu lié à la peinture, à l'art et tout ça. Mais on est clairement dans un jeu qui est ultra artistique, même tu as une partie danse tribale, là aussi c'est quelque chose d'artistique. Donc encore une fois, c'est un ovni, voilà, ce jeu c'est un ovni.
Ça, les petites phases de danse qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment la marque de fabrique d'Inner Space. On sait justement, ils ont vraiment ce côté artistique dans leur production qu'ils veulent vraiment mettre en avant et qui fonctionne bien. Et ça fait penser en fait à une de leurs premières expériences en réalité virtuelle, qui a quelques années maintenant, c'est Firebird Lapéry, qui était sorti uniquement sur PC, où c'était un spectacle de danse. C'était un spectacle de danse. Et justement, là, on retrouve vraiment, c'est comme un gros clin d'œil. Dans ce Mask Maker et avec des mouvements d'une fluidité, d'ailleurs ça a été motion capturé chez Quantic Dream, je crois.
Exact.
Ouais, et comme Lapéry d'ailleurs, comme Firebird Lapéry. Justement, il nous avait expliqué ça, Balthazar, quand on l'avait reçu à l'émission. Ils ont pas mal d'incointances justement avec Quantic Dream pour tout ce qui est capture de mouvement et tout ça. Donc, ouais, j'ai aimé ces phases-là en fait. J'ai eu vraiment un sourire quand il y a eu ces phases-là dedans et je me suis dit, ah, ouais, c'est vraiment leur. Leur petite touche à eux, quoi.
Mais au final, c'est ça. Ce jeu, en fait, c'est que ça. C'est que du. Enfin, pour moi, encore une fois, hein, comme je l'ai dit, c'est très subjectif. Hein, mais c'est quasiment du sourire permanent. C'est un jeu qui fait du bien, en fait. Voilà. C'est vraiment ça. C'est un jeu qui te fait du bien. T'es posé. T'as pas de forcément de stress à avoir.
T'as pas de pression. Hein.
Voilà, t'as quand même une histoire qui est intéressante. Il y a un background, il y a quelque chose qui te donne envie d'avancer et de continuer. Et puis ce gameplay qui, au final, en fait, est très simple. Comme je disais, la boucle de gameplay, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est voilà, tu vas arriver dans ton environnement, tu vas avancer. Tu vas être bloqué par un obstacle. Cet obstacle, tu vas pouvoir le passer uniquement en en scannant le masque. Alors tu as une lunette, une longue vue. Ce passage, tu vas pouvoir le passer uniquement en scannant le masque qui se trouve de l'autre côté de l'obstacle que tu ne peux pas passer. Et une fois ce masque scanné, il va falloir que tu explores en gros l'environnement dans lequel tu es pour récupérer des matériaux, qui vont te permettre de confectionner donc ce nouveau masque. Et donc là où c'est important, du coup, où on parlait d'enlever et de mettre son masque, c'est que tu as certains matériaux qui ne vont se trouver que dans d'autres mondes. Et en fait, chaque type de masque, donc chaque moule de masque correspond à un type de monde. Et il faut que tu personnalises les masques en fonction de chaque personnage pour aller sur plusieurs points de vue dans chaque monde. Voilà. Et c'est ça, en fait, le gameplay à proprement parler, c'est de jongler, en fait, avec ces différents points de vue et ces différents automates, on va dire, puisque c'est plus ou moins ça, qui va te faire avancer dans l'histoire, voilà. Et cette simple boucle de gameplay, en fait, donc avancer, buter sur un obstacle, analyser, chercher, créer, en fait, elle se répète en permanence, et ça marche, encore une fois. Et pourtant, c'est d'une simplicité monumentale, finalement. Mais,
c'est vrai que, c'est pas lassant, bizarrement.
Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Et du coup, alors la réelle, j'en ai parlé, et aussi voilà, un fait que j'ai trouvé moi aussi très plaisant, alors tu vois, et là-dessus on n'était pas d'accord, c'est que tu ne te sens jamais seul en fait dans ce jeu. Oh, alors que finalement, dès le départ du jeu, tu es seul.
Oui.
Physiquement, en tout cas. Et en fait, moi j'ai ce sentiment chaleureux toujours, tu sais, d'avoir quelqu'un qui me surveille, qui m'épaule ou qui va m'aider, si tu veux.
Ah,
tu
moi vois. Ça m'a saoulé, ça m'a sursaoulé.
Et
ça.
Voilà, et c'est là où on n'est pas d'accord pour le coup, mais c'est moi ça. C'est quelque chose que j'ai apprécié.
Et j'aime bien être bien accompagné, mais j'aime pas qu'on me force la main, et la voix en fait qui t'accompagne passe son temps à te forcer la main, et je trouve que c'est vraiment infantilisant et vraiment trop présent. T'as toujours une voix en fait qui est avec toi, et en gros, quand tu butes sur un truc, quand t'as une bon, micro,
on peut
énigme,
dire qui c'est, hein, c'est pas un spoil, hein.
Ah, c'est pas un spoil, bah, c'est le roi, quoi.
Non, c'est Prospero en fait qui est le
Prospero, hein.
Du coup, le roi du monde, lequel ouais. On se trouve, bah, c'est la chose qui t'annonce juste après le tuto, donc c'est pas vraiment
d'accord,
c'est pas vraiment un spoil.
Mais voilà, quand tu commences à bloquer, bah, tu vois, c'est typiquement le genre de voix qui dit tu devrais faire ça, tu devrais aller voir par ici, tu devrais trouver ça. Et il passe son temps, en fait.
Alors, ça, c'est parce que t'es nul.
Non,
parce qu'en fait, c'est quand tu butes sur une énigme ou sur que tu passes trop de temps sur un certain
non,
une certaine zone, en fait,
quand
il te
tout
dit
simplement.
Oui, bah là, il te dit du coup que bah il t'indique où est-ce qu'il faut aller parce qu'il te sent perdu.
Ouais, mais enfin qui laisse un petit peu plus de temps parce que là c'est au bout d'une minute le truc. Je sais pas, moi je regarde, je me balade, voilà. Et en plus j'ai mis les voix en anglais, donc je l'ai pas fait en français celui-là. Parce que je me suis rendu compte après que je pouvais changer les langues une fois que je l'avais terminé, tu vois.
C'est moche. C'est dommage parce que le doublage français est très très bon.
Ouais, mais en anglais ça passe vraiment bien. Franchement, ça m'a pas choqué vu que c'est pas de l'anglais très compliqué, ça m'a pas embêté. Mais ça a peut-être favorisé mon agacement vis-à-vis de ces voix qui sont tout le temps là, qui répètent dans l'atelier tout le temps les mêmes choses plusieurs fois. Non, c'est relou quand t'es en train de faire ton petit masque et tout, et ben t'as envie d'être peinard quoi, pour bosser, pour kiffer tes petites peintures, tes petites décorations, et pas avoir une voix qui te gueule derrière. Moi ça m'a gonflé, franchement c'est trop présent.
Je peux comprendre, j'avoue que je peux comprendre. Des fois c'est vrai qu'ils sont un peu assistants, mais pour la majeure partie du temps, c'est pas le cas. Faut être honnête.
Des trucs du genre, ce n'est pas toi qui portes le masque, c'est le masque qui te porte.
Qui te porte,
mais c'est bon, ta gueule. je suis en train de peindre, là, je me concentre. Donc voilà, c'est ouais, j'ai un petit bémol là-dessus pour moi. Voilà.
Bon, après, il a pas eu 10, hein. On lui a mis 8 parce qu'il y a quand même, 2-3 choses qui vont pas. Mais voilà, le plus important, c'est ça. C'est vraiment que cette boucle de gameplay fonctionne à merveille, que les environnements sont très jolis et dépaysants. La bande son favorise énormément
le chill.
Comment dirais-je, cette manière de jouer posée et calme et détendue. Effectivement, les voix peuvent un peu aller à contre-courant de ça par l'agacement et la répétition, mais voilà, on est vraiment sur un jeu vraiment tranquille. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a une petite partie aussi puzzle game. On va dire anecdotique parce que c'est pas vraiment du puzzle. Si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir un par niveau, mais ça reste très simple. Voilà, c'est vraiment ça va être de la collecte d'objets ou un genre de jeu de labyrinthe, mais pas vraiment compliqué. Donc là-dessus, c'est pas le point fort. Il y a aussi une petite partie collecte. Où dans ton atelier en fait tu as une étagère à côté de la cheminée et tu vas récupérer divers objets en fait dans ton escapade des mondes, qui sont des objets on va dire un peu collector et qui vont venir s'afficher sur cette étagère et qui vont te permettre, je pense, de débloquer un trophée. Je n'ai pas fait jusqu'au bout cette quête, je suis pas trop un chasseur de trophées pour le coup.
Ah, il m'en manquait un, j'étais dégoûté.
Mais t'as pas été le chercher.
Non, mais en fait, sur les étagères, c'est pas extrêmement clair. Je crois qu'il y en a un par zone, ou deux, je crois, par zone. Et du coup, vu que c'était pas extrêmement clair dans quelle zone je l'avais raté, je me suis pas fait chier.
T'es pas attardé, quoi. Voilà. Donc, il y a cette petite partie en plus, et puis voilà. C'est un jeu aussi qui fourmille de détails. Je l'ai dit, ils font les choses bien chez Inner Space pour le coup. Un truc tout bête, on parlait des pinceaux tout à l'heure pour peindre tes masques, tu en as deux. Alors, ça sert à rien qu'on se le dise, hein, parce que t'as un pinceau, tu le trempes dans une couleur, tu peins, tu le trempes dans une autre couleur, de suite, il peint dans une autre couleur. Il n'y a pas de notion de mélange. A contrario, quand tu vas faire tes bacs de peinture, parce que tu peux préparer plusieurs bacs à l'avance, tu as cette notion de mélange. Donc pour faire du vert, tu vas prendre du jaune et du bleu. Pour faire du orange, tu vas prendre du jaune et du rouge. Enfin, il va falloir faire ça. Et du coup, en fait, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que par instinct, tu vas poser ton pinceau, on va dire sale ou d'une couleur, et tu vas aller prendre l'autre pour le tremper dans une autre couleur. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Pareil, il y a un moment, quand tu as la roue. Tu as la roue, la manette pardon, pour faire descendre les différents panneaux avec tes masques affichés dessus. Cette roue, elle a plusieurs couleurs en fait, qui correspondent à la couleur de base des masques. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a, un moment, alors attention spoiler si vous voulez pas vous spoiler le jeu, passer dans 20 ou 30 secondes. Donc il y a un moment où tu es dans l'atelier en fait, où tu dois réparer l'engrenage. Et en fait, je sais pas si tu as vu, mais même dans cette partie d'engrenage, tu as sur la droite les couleurs de ces panneaux justement qui sont elles aussi repris dans le mécanisme en fait. Et c'est du détail,
Y a plein de petits détails comme ça, ouais.
mais c'est du détail qui fonctionne et qui augmente vachement l'immersion en fait.
C'est ça,
Et
la
tu te dis, ah oui,
cohérence.
en fait, c'est un vrai mécanisme, du coup, c'est logique, etc. Tu vois. Alors, c'est tout bête, hein, mais c'est voilà, c'est encore une fois, c'est cet attachement aux détails, comme bah, le fait que les motion capture soient faites chez Quantic Dream, parce que les danses tribales, les motion capture, elles sont incroyables. C'est vraiment hyper, hyper fluide et hyper chiadé. Contrairement, par contre, au mouvement des automates, quand tu arrives dans la zone au début, tu as un miroir toujours, et en fait, tu as les bras tendus, mais comme un teubé.
Oui,
Si tu
oui,
veux.
oui. Oh, c'est tout dans tous les jeux VR, ça.
Ouais, bien sûr, mais bon, j'avoue que pour le coup, c'est vrai que même quand tu vois
Ça
les autres
surprend.
qui prennent la pose et tout, t'es un peu rigide comparé à ça. Bon, enfin
C'est
bref.
ça.
Mais du coup, ouais, c'est par contre, voilà, c'est encore une fois, c'est un jeu qui est ultra quali, ultra beau à regarder, à contempler, malgré la simplicité de ses textures et de ses graphismes, voilà.
C'est ça. Mais c'est vrai que la fabrication de masques, comme je disais avant l'émission, c'est un des défauts du jeu. C'est justement son excellence dans les domaines, dans le côté sympa à jouer, le confort qui est donné aux joueurs de le parcourir, de faire tes masques, tes petites peintures, machin, comme avec les deux pinceaux. C'est uniquement pour apporter du confort aux joueurs, en fait, qu'ils en ont mis deux. Et du coup, tu voudrais que ça dure plus longtemps, tout simplement. J'aurais pas été contre
Exact.
une phase supplémentaire dans ce jeu-là, un petit endgame, avec peut-être des mini-jeux, peut-être des masques random à refaire, tu vois, juste pour le plaisir de faire ton masque, en fait. Ça, j'aurais bien aimé. Donc là, il dure quoi? Il dure 5
5
heures à peu
heures,
près?
entre 5 et 6 heures. Moi j'ai mis
Ouais.
5h30 pour le finir.
Voilà, mais j'ai mis 5 heures aussi, 5 heures et quart, je crois. Et voilà, en fait, j'aurais pas dit non à 1 heure et demie de plus, sans les voix, tant qu'à faire. Mais voilà, juste à faire mes petits masques comme ça. Et puis, le truc, c'est qu'ils ont plein d'idées de gameplay. Là, je vais pas du tout spoiler, mais je vais quand même parler de la fin du jeu. Il y a des idées de gameplay, en fait, qui sont mises en place à la fin du jeu. C'est beaucoup trop court, en fait. Ça aurait été génial qu'ils allongent un petit peu la sauce de ce genre de cette phase-là. Voilà, donc pour peut-être
Mais
leur.
en fait, disons que chaque idée n'est pas forcément reprise dans les niveaux suivants. C'est-à-dire que c'est une nouvelle idée qui est amenée ou comment dirais-je, une nouvelle phase de jeu qui est amenée, mais qui n'est pas reprise dans les niveaux d'après.
C'est pas du
Et
tout surexploité, hein, ça c'est sûr.
voilà, c'est ça. C'est ça. C'est
Donc.
pour éviter de tomber dans la redondance, du coup. Et c'est ce qui fait que le jeu n'est pas redondant, mais qu'il est trop court. Mais au final, est-ce que c'est pas un bien, enfin un mal pour un bien, comme on dit? Le fait qu'il soit
Ouais.
trop court et que l'expérience ait été aussi intense
Bah tu
et
t'ennuies pas
sympa,
quoi.
à jouer, quoi.
Tu t'ennuies pas, ça c'est sûr. Mais par rapport à des jeux justement qui sont trop longs parce que trop répétitifs, il y a un juste milieu entre ça et puis apporter des phases de gameplay, pas suffisamment peut-être les utiliser. Moi c'est sûr que voilà, ils lassent pas. Mais ouais, j'aurais bien aimé un petit truc en plus, un petit peu de
Bah,
gameplay
c'est
en
vrai
plus.
qu'un éditeur de masques simple, ça aurait été cool. Après, est-ce que ce serait pas le mode bonus quand tu découvres tous les artefacts à fouiller dans chaque zone?
Oh non, je vais
On
pas y
sait pas.
retourner,
Mais c'est vrai que ouais, ça aurait été sympa. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il est trop court. Enfin, il est trop court parce qu'il est bien.
C'est ça. Oui, c'est
Mais
ça.
je me répète, est-ce qu'il serait aussi bien s'il avait été plus long? On n'en sait rien. Donc,
Ah,
en l'eau.
une phase supplémentaire, je pense pas que tu aurais craché dessus non plus.
Bah, non, parce que je l'ai dévoré, hein, très honnêtement. Je l'ai fini en 2 jours. Enfin, j'ai fait en 2 jours, en deux. Enfin, oui, en 2 jours, mais je l'ai fini en 2 sessions de jeu. Donc,
Tu vois,
non, il est.
une phase supplémentaire qui mélangerait un peu plus les gameplays que tu aurais utilisés justement dans le jeu. Par exemple, pour le truc avec les champignons, je vais rester évasif hein, pour pas spoiler, le truc avec les champignons. Ou alors. Ah
Bah, tu
merde.
l'as.
Oui, tu l'as, mais justement, et mélanger un petit peu entre les mondes, une troisième phase en mélangeant justement toutes les
Bah
idées
ouais,
de
mais
gameplay.
étant donné que chaque monde raconte plus ou moins son histoire,
Ouais.
ça reste compliqué. Non, franchement, moi je trouve qu'il est très bien comme il est. Faut pas trop en demander. Et puis après, voilà, le fait que le gameplay soit comme ça et que justement, comment dirais-je, ça soit sectorisé, favorise la narration et puis l'envie qu'on a, voilà, d'avancer, de toujours découvrir. Parce que c'est ça en fait, c'est la découverte. Ce jeu, on parlait de Walking Simulator dans Layer of Fear. Au final, c'est un peu la même chose, hein. C'est un Walking Simulator avec une partie création de masques et quelques énigmes. C'est un puzzle game, mais avec une bonne partie Walking Simulator. Mais ça fonctionne, encore une fois. Tu t'ennuies jamais dans ce jeu. C'est
C'est
surtout ça.
ça.
Enfin, du coup, pour nous, voilà. Parce qu'encore une fois, c'est un test. Encore une fois, ça reste très subjectif. Mais nous, en l'occurrence, on ne s'est pas ennuyé. Enfin, moi, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Laurent non plus. Et vraisemblablement, toi non plus. Hormis quand les voix te cassaient les pieds, quoi.
J'aime pas qu'on me parle, surtout quand j'ai rien demandé, en fait, c'est ça. Ah si, il y a juste un moment où je suis resté coincé un bon moment sur le monde de la neige. Parce que moi, du coup, j'ai joué sur PC, donc avec les sticks. Alors, ben, forcément, là, c'est déplacement libre, fluide, pas de problème.
Même moi non plus. Non, je
Et
déconne.
ouais, le truc, c'est que je suis resté coincé, en fait, avec le stick gauche sur PC, tu peux te déplacer librement. Avec le stick droit, tu peux te téléporter. Seulement, j'utilise tellement jamais la téléportation qu'à un moment, tu sais, t'as un pantin qui est sur un espèce de funiculaire comme ça que tu dois débloquer pour le faire avancer.
Oui.
Et j'ai réussi à me mettre à la place du pantin dans le funiculaire. Impossible de trouver le moyen comment sortir de ce funiculaire parce que t'as une petite corde en fait qui bloque l'accès. Et donc j'allais contre, je me disais merde, 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 mais en fait je peux pas sortir. Comment je fais? Il y a un truc. Je suis resté coincé. Je pense un bon quart d'heure. Essayer de trouver des solutions, à voir si j'avais pas des objets que j'aurais oubliés dans d'autres mondes, etc. Et en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'était se téléporter à l'extérieur du funiculaire.
Exact.
Voilà. Quand j'ai vu ça, j'étais putain, mais quel con! Sérieux, tellement pas l'habitude d'utiliser le TP que voilà. Donc
Exact.
faites gaffe à ce moment-là.
C'est
Ouais,
vrai.
c'est.
Bah après, c'est bête, mais ça paraît logique. Alors, bah du coup, t'as peut-être pas. Ah, non, trop de spoilers. Bref, je vais pas le dire. Mais par
Bah,
contre, alors. Bah...
logique, non. Ce qui aurait été logique, c'est que la petite cordelette est une physique et que tu prennes la petite cordelette et que tu puisses l'enlever quoi avec ta main.
Oui, j'avoue. C'est vrai.
Toi? Parce que là, je
Bah,
ne savais pas s'il fallait arrêter le funiculaire, s'il fallait le laisser en marche, etc. En fait, non, c'était tout con, il fallait juste se TP.
Du coup, je vais parler de... Parce qu'il y a quand même quelques défauts. Donc je l'ai vite fait annoncer tout à l'heure. Je vais en parler. Il y a quand même... bon, au niveau de la version PSVR, du coup, des problèmes de motion sickness à cause des rotations. Ou si vous prenez le mode... Alors, j'ai pris le mode totalement libre, sans vignette, sans rien. Et les rotations fluides sont super lentes. Alors ça m'avait fait penser à... J'avais eu le même problème sur Doctor Who The Edge of Time, où les rotations donc étaient super lentes. Et en fait, ta tête va plus vite que la rotation, ce qui fait que tu peux avoir tendance à avoir ce petit mouvement naturel bah, qui va perturber ton oreille interne. Et alors j'y ai joué assis, je ne l'ai pas fait debout. Et du coup, malgré le fait d'être assis, ben ça titille un peu l'estomac. Donc je conseille vivement de mettre la rotation angulaire. Et pareil pour les déplacements libres. Alors là, c'est plus un problème de dose. Enfin, encore une fois, c'est un problème de dosage. C'est qu'il y a deux types de vitesse. Il y a la vitesse lente, on va dire, donc pour marcher, et la vitesse rapide pour courir. Et en fait, les deux passent d'un extrême à l'autre.
Ouais, c'est ça.
Mais très impressionnant, c'est-à-dire que la vitesse lente est super lente et la vitesse rapide est super rapide.
Tu passes
Et donc...
d'une marche de papy à Doom Eternal en sprint, en fait.
Exactement,
Ouais, c'est ça. Mais non, mais
c'est pas
vraiment,
faux.
c'est du fast FPS, c'est très bizarre.
Et du coup, ça en devient, alors au PS Move, ça en devient parfois difficile à diriger. Et je me suis pris bah, quelques murs, pareil, où je suis resté même bloqué derrière une torche au bout d'un moment. Bah, j'arrivais plus à avancer, j'avais beau décaler mon move pour le faire décaler à gauche, en fait je faisais quasiment du surplace, bref. Et du coup ouais, ça fait partie des points négatifs. Il y a aussi alors quelques chutes de framerate que j'ai eu sur la version PS5. J'en avais discuté avec Lolo qui semblait me dire qu'il n'y en avait pas. J'ai vu des commentaires donc sur le test du jeu sur le site qui me souligne qu'il y en a aussi sur la version PS4 Pro. Donc, j'ai dans mon test annoncé, je pensais que c'était un problème de rétrocompatibilité, bah, du coup, mea culpa, visiblement, ça ne l'est pas, c'est un problème inhérent au jeu. Donc, y a ça aussi comme défaut. Il y a, comme tu disais, un peu de redondance dans la parole des comment dirais-je,
Des
bah,
voix.
des voix. Il y a aussi quelques bugs. Alors là, pareil, attention, spoiler. Donc passer on va dire quoi une petite trentaine de secondes encore. Il y a une énigme dans le monde donc les pics du Zéphyr là dans le monde des montagnes enneigées où tu dois réparer donc le fameux funiculaire dont tu parlais tout à l'heure et tu dois réparer donc l'engrenage et en fait tu dois mettre une espèce de barre en bois dans un trou pour y insérer l'engrenage et en fait tu as le dessin de cette barre en bois qui se profile par transparence et en fait le dessin il est fait à l'envers. Donc c'est-à-dire que j'ai... alors je sais pas si c'est comme ça sur la version PC, en tout cas sur la version PSVR c'est le cas. Et tu as deux types de barres en bois justement à insérer. Il y en a une pour laquelle ça fonctionne très bien et l'autre ça ne fonctionne pas du tout. Et j'ai essayé pendant un bon moment, je me disais je dois pas être en face machin. Et en fait au bout d'un moment elle m'est venue l'idée de la tourner. Et bah, le fait de la mettre à l'envers l'a fait rentrer parfaitement dans son emplacement.
J'ai pas du tout fait gaffe de
Eh
ça.
ben écoute, tu verras. Alors, j'ai fait pas mal de vidéos de gameplay sur la chaîne Vrak. Donc, si vous voulez y aller pour voir un peu plus ce que ça donne, c'est pas des vidéos qui sont très longues. Ça fait 10 minutes et j'ai présenté presque tous les environnements. Et du coup, j'ai insisté sur ce passage-là quand j'y suis. Alors, forcément, moi, sur les
D'accord.
vidéos Vrak, il y a du spoil. Donc, enfin, je pars du principe que si vous y allez, vous savez que vous allez être spoilé. Et du coup, j'ai insisté sur ce passage-là. Et puis c'est franchement j'ai trouvé ça bizarre. Tu me vois, tu sais, enfin je fais genre what, tu sais, avec les mains. Enfin, j'écarte les mains de manière un peu agacée. Et du coup, j'avoue que j'ai pas compris pour le coup. Enfin, c'est un petit bug. Et puis hormis ça, il n'y a pas vraiment de défaut à lui trouver quoi.
Non, une bonne
Donc
pioche.
le prix, je n'allais pas parler aussi, c'est 19,99, donc c'est 20 euros. Encore une fois, c'est pas cher pour ce que c'est. Ça reste un quart du prix d'un jeu plein pot PS5 ou même PS4. Donc, franchement, le résultat est là, la réalisation est là, le plaisir est là, le prix est pas excessif. On pourrait ouais aussi lui reprocher le fait, comme tu disais, qu'il soit trop court, le fait qu'il n'y ait pas de rejouabilité particulière hormis la collecte des objets.
C'est
Voilà,
même pas qu'il est trop
c'est.
court, c'est qu'on en voudrait plus en fait. C'est parce qu'une fois que tu le
Bah,
termines, tu te sens pas lésé. Quand tu le termines, tu te dis
oui,
pas
ouais,
putain,
voilà,
ça
c'est
se
ça.
termine un peu rapidement. Non, non, tu te dis ah j'aurais bien continué, tu vois, c'est un petit peu différent en fait. J'y serais bien resté. J'aurais bien essayé d'autres trucs, j'aurais bien fait encore plus de masques, j'aurais bien. Mais quand tu le termines, t'es pas frustré. En plus, la fin est vraiment vraiment bien. Et je vais me taire là parce que moi il y a un truc qui m'a beaucoup plu sur la fin, mais je peux pas en parler là parce que forcément, bah,
On en
si.
parlera en off parce qu'on n'en a pas parlé.
On parlera en off, voilà. Un petit clin d'œil
Voilà,
sympa.
donc ce que
Voilà.
j'avais à dire. Donc je lui ai mis 8 sur 10. Je l'ai classé parmi les top PSVR. Pour moi, c'est un top 10. Voilà, au moins, minimum.
Ok. Eh ben, très très bien. Donc Mask Maker, Inner Space. Très bon jeu
Merci.
encore. Ils ont l'habitude de faire des bons jeux, donc on peut leur faire confiance et on attend vraiment leur prochaine production avec impatience, bien
Exact.
évidemment. On les attend au tournant. Voilà, mon petit Majo, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter dans cette émission?
Eh ben pas ce soir, tu vois, j'ai pas envie de t'emmerder ce
Pas ce
soir.
soir, dis donc. Bah c'est étonnant, ça, tu progresses. C'est bien, c'est bien. Ok, bah écoute, bah, je pense qu'on va se laisser là. On remercie les auditeurs, on remercie les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur le site Verfa Player, sur le Discord. Venez nombreux, vous allez voir, c'est sympa.
Il y a des muets.
Il y a des muets, voilà, donc bah faut pas être timide hein,
N'hésitez
comme
pas
ça.
en fait. Ce que ça sous-entend, c'est que si vous voulez discuter, n'hésitez pas, soyez pas timide, on va pas vous manger.
Ah oui, c'est ça, ouais.
On est comme les autres, hein. On aime discuter tant que ça reste dans la manière la plus simple, polie et courtoise. Ça se passera bien, on est ouvert sur beaucoup de choses et on est passionné comme d'hab, donc n'hésitez pas. Si vous voulez parler, allez-y,
Voilà.
lâchez-vous, un petit commentaire. Commencez par bonjour et vous
Ouais.
allez voir le reste, ça va suivre tout seul.
Ça va aller tout seul, exactement, exactement. Donc voilà, que je remercie encore donc les gens qui nous ont, même les muets hein, qui nous ont rejoints, c'est bien cool. Voilà, vous pouvez nous retrouver ben, sur toutes les applications de podcast qui fonctionnent bien. Et puis vous pouvez nous retrouver également donc les tests sur la chaîne principale de VR for Players sur YouTube, les vidéos de gameplay, les vidéos un petit peu plus what the fuck sur la chaîne VRAC. N'hésitez pas non plus à venir dessus.
Voilà, vous abonner, à partager. Exactement. Abonnez-vous aussi, ça nous aidera. Et puis voilà.
Voilà, une petite note sur iTunes pour aider le podcast et nous aider à continuer. Hein. On n'a pas besoin de sous, hein. Nous on a juste besoin d'amour et de reconnaissance. Donc voilà, pour continuer à vous partager notre passion. Et puis on vous dit à dans 2 semaines, on vous fait des gros bisous et puis à bientôt.
Ciao. Salut.
Ciao, ciao. Bon voilà, est-ce que je spoil à mort ou pas? Du coup maintenant.
Est-ce que tu peux enfin moi j'ai pas coupé l'enregistrement mais tu peux va.
Je peux. Non, c'est juste un truc, c'est à la fin de non. Si vous êtes encore là, hein, barrez-vous hein, si vous avez pas fait le jeu encore. Hein. C'est ouais, non, je préfère prévenir encore parce qu'après on va se prendre des scuds parce que vous spoilez. Donc ouais, c'est juste un truc tout bête hein, c'est ils ont cassé le quatrième mur à la fin du jeu en disant oui mais en fait le masque maintenant faut l'enlever hein. En parlant du PSVR ou du casque VR quoi.
Ah mais je l'ai pas compris comme ça moi.
Tu l'as pas compris comme ça genre allez-y maintenant bah vous avez plus besoin de votre masque, vous pouvez l'enlever et puis voir un petit peu la vraie vie. C'est ce genre de petite phrase à la con, tu vois, que j'aime bien. J'ai bien aimé ce petit clin d'œil quoi.
Non, moi je l'ai pas compris comme ça parce qu'en fait tu es Prospero.
Oui, je sais. Mais
pour moi le masque c'était le masque du personnage qu'il avait on va dire plus jeune. Mmh. Et du coup qui peut faire tomber, ou son masque de roi du royaume etc, parce qu'en fait il se parle, c'est pour ça que tu me disais ouais les voix elles me cassent les couilles et tout, mais en fait le mec il entend des voix dans sa tête. Mmh. C'est clairement ça, et du coup il te le dit à la fin, les voix vont maintenant pouvoir s'arrêter dans le sens où tu vas pouvoir enlever le masque, et donc le masque de ton personnage de roi, et en fait les voix dans ta tête vont s'arrêter. Mmh. Moi je l'ai compris comme ça.
Ah moi je l'ai pris comme cassage du quatrième mur quoi, en disant bah vas-y toi joueur aussi enlève ton masque, t'en as plus besoin.
Ah écoute, je me suis peut-être trompé, alors j'ai peut-être été trop loin dans la philosophie.
Non, c'est, je pense qu'effectivement il y a une explication dans la diégèse du jeu. Et puis t'as aussi voilà un petit clin d'œil pour le joueur quoi, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment quand tu joues pas mal en VR tu fais plus gaffe à ce que t'as sur la tête hein.
Donc, quand ah ça oui, te... bah, clairement, moi je l'oublie. Hein.
Donc quand ça te voilà, quand ça te confronte un petit peu à ta réalité, ben c'est, je trouve ça toujours sympa. Donc voilà, fin du spoil. Bon bah
voilà, fin du spoil.
Bon, on vous a prévenu pour le bonus. S'il y en a qui sont restés.
Et non, bah écoute, très bon jeu encore.
Allez, j'arrête. Hop.